Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et en cette fin de saison, après 16 mois de crise sanitaire, je vous propose un entretien avec l'écrivain et philosophe Frédéric Lenoir. Une voix essentielle pour y voir plus clair, alors que se profile peut-être, je dis bien peut-être, la fin de la pandémie. Une crise qui a pu nous déprimer, remettre en question nos modes de vie, qui a pu révéler des angoisses existentielles, accentuer notre peur de la mort, et dans le même temps, une crise qui a mis en lumière notre besoin ardent de mettre du sens dans nos vies, d'y injecter du sacré. Le sacré, cette quête vieille comme l'humanité. Nous verrons comment retrouver le chemin du sacré sans forcément adhérer à une religion. Comment cultiver une spiritualité laïque. Vous pouvez poser toutes vos questions à Frédéric Lenoir au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue donc dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Ali.
Vous êtes sociologue des religions, philosophe, écrivain, cofondateur de la fondation Sève, Savoir être et vivre ensemble. Et vous avez récemment publié Les chemins du sacré aux éditions de l'Observatoire. Et votre série documentaire Les chemins du sacré est toujours visible sur arte.tv. Alors dans le Robert, plusieurs définitions du sacré qui appartient à un domaine interdit et inviolable et fait l'objet d'une vénération religieuse, mais aussi qui est digne d'un respect absolu. Pour votre part, Frédéric Lenoir, vous reprenez la définition du sacré du théologien et philosophe Rudolf Otto. Expliquez-nous.
Mais en fait, effectivement, la définition la plus répandue, qui est celle que vous venez de lire du Robert, a été développée par le sociologue Émile Durkheim et qui constate que dans toutes les religions, il y a toujours une distinction entre le sacré et le profane. Et le sacré, c'est ce qu'on met à part. D'ailleurs, le mot sacré en hébreu, kadosh, ça veut dire à part. Et donc, on observe qu'il y a des lieux sacrés, il y a les temples, les mosquées, les synagogues, etc. Et c'est pas cette définition qui m'a le plus intéressé, parce que d'autres penseurs, notamment des anthropologues comme William James, Rudolf Otto, etc., nous disent « mais le sacré, c'est aussi un sentiment universel », c'est-à-dire un sentiment que l'être humain a toujours ressenti face au mystère du monde, face à l'énigme de la vie, et ça le pousse à développer une spiritualité, c'est-à-dire à se questionner sur l'origine, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, etc. Et j'aime bien cette définition parce que j'ai le sentiment, en observant l'histoire des religions, que le sacré, ce sentiment du sacré est à l'origine de toutes les religions. C'est parce que l'être humain ressent s'émerveille devant la beauté du monde, ressent qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qu'il est devenu religieux. Mais la religion est une conséquence du sacré, de quelque chose qui est un sentiment qu'on peut tous avoir. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que le sacré revient en dehors des religions. Et qu'on voit plein de gens qui vous disent « mais moi, je vais marcher sur les chemins de Compostelle, mais je suis pas croyant du tout, mais je m'émerveille en marchant dans la nature, devant cette beauté des paysages, le soleil qui se lève le matin, les gens qu'on rencontre qui nous bouleversent, etc. » Donc le sacré, il est partout, à travers l'émotion qu'on peut ressentir devant ce qui nous dépasse, dans les rencontres humaines, devant la beauté du monde. Et je trouve que c'est une manière de parler d'une expérience universelle qui n'est pas forcément captée, je dirais, par les discours religieux.
Enfant, vous ressentez cet appel du sacré quand vous vous réjouissez à la vue d'un feuillage dans votre jardin, émerveillement au contact de la nature et interrogation sur le mystère du monde et l'énigme de l'existence. Ça commence très tôt.
Ah oui, mais vous savez, presque tous les enfants. En fait, quand dit la métaphysique, ce sont des adultes qui essayent de répondre à des questions d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? La vie a-t-elle un sens? Mais les enfants de 3-4 ans, ils posent tous ces questions. Et puis après, comme on leur dit, on sait pas, finalement, ils arrêtent de se poser ces questions. Puis on devient des adultes qui avons le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'on essaye de gagner notre vie, de vivre, etc. Mais ces questions-là, elles sont fondamentales.
Mais à cette époque, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le bruissement du sol au fond de votre jardin? Qu'est-ce que vous ressentez?
Je ressens une sorte de... comment dire, une sorte de joie intérieure devant la magie de la nature. Et puis les lumières, j'ai toujours eu ce sentiment dans la nature. On pourrait dire que mon cœur s'est ouvert. C'est-à-dire qu'au fond, quand on me pose la question, c'est quand la première fois que t'as été amoureux, je dis mais c'est quand, c'est avec la nature. Je sentais que j'avais une émotion. Je suis très esthète, hein. Donc je suis ému par la beauté. Et la beauté, elle a commencé par la nature. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait une harmonie. Et du coup, je me suis toujours dit, mais ça peut pas être le hasard qui fait que je suis sensible à cette beauté, que le monde a cette harmonie extraordinaire. Mais il suffit de regarder le ciel étoilé, etc. Je me dis, mais c'est tellement beau, j'ai du mal à croire que tout ça soit né par hasard. Alors après, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et puisque dans les traditions religieuses, on appelle Dieu, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, je sens que ça a du sens. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est là, comme ça, accidentellement.
Et dans le même temps, vous vivez une enfance moyennement heureuse.
Oui, exactement. Vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire qu'il y a, du pour et il y a du contre. Le pour, c'est que je nais dans un milieu culturel assez élevé, puisque mon père, effectivement, était un haut fonctionnaire qui avait une grande culture philosophique et que ma mère était codicologue, c'est-à-dire elle s'occupait de codex médiévaux. Et puis, à côté de ça, mes parents s'entendaient pas du tout. Ils étaient dans un chaos relationnel qui fait qu'à 8 ans, je leur disais, je vous en supplie, divorcez. Donc, il y avait, je dirais que cette culture qui m'a permis de développer mon intelligence et cette souffrance affective qui fait que j'étais en recherche de quelque chose, certainement aussi pour retrouver un équilibre intérieur.
Et oui, vous êtes touché par la grâce quand vous contemplez la nature, mais vous êtes peu touché par votre mère qui ne vous complimente.
Qui ne nous touchait pas.
Qui ne vous touchait pas.
Parce que sa mère
ne vous complimente jamais.
Jamais. Sa mère, qui avait reçu une éducation religieuse extrêmement stricte, lui a dit, ne touche jamais tes enfants, tu vas éveiller leur sexualité et ne leur fais pas de compliments, tu vas éveiller leur orgueil. Ça, c'est les restes d'une éducation un peu janséniste catholique. Et effectivement, j'en ai énormément souffert. Et quand je voyais les mères chaleureuses de mes amis, je rêvais de changer de famille. Finalement. Et puis mon père qui était chaleureux, c'est-à-dire que lui, il était pied noir, donc il avait un côté beaucoup plus chaleureux, mais très tyrannique. Ouais. Donc c'était un peu le tyran domestique, et donc j'étais un peu coincé dans cette relation, et c'est vrai que la nature, c'était un échappatoire. C'est-à-dire, je sortais, et on avait un jardin, je partais dans le jardin, petit, les parents me couraient après, me disaient, mais où tu vas? Et c'est dangereux, la nature. Je disais, non, c'est pas dangereux, les loups me protègent. Donc vous voyez, j'avais absolument pas peur de la nature.
Et donc tout ceci n'est pas anodin dans votre quête de spiritualité. Alors plus tard, à l'adolescence, comment se traduit cette recherche du sacré? Vous intéressez au grand courant de la philosophie, de la spiritualité.
Ça commence par mon père qui me donne à lire le Banquet de Platon. Parce que on parlait de l'amour, il me dit, tiens, il y a un bouquin qui en parle très très bien. Il me donne le Banquet de Platon, qui est un livre très accessible, où il y a des philosophes qui discutent autour d'un banquet sur l'action de l'amour. Et je lis ça, et ça me percute totalement. Et du coup, entre 13 et 16 ans, j'ai lu tous les dialogues socratiques, j'ai découvert Épicure, les stoïciens, etc. Puis après de là, ça m'a conduit au bouddhisme, parce que je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des sages, finalement? Et puis je découvre les documents d'Arnaud Desjardins, je vois le Dalai Lama, donc après je pars en Inde, voilà, il y a eu toute cette quête, et je dirais que la spiritualité et la philosophie, pour moi, ont toujours fait bon ménage, parce que les Grecs sont très spirituels, c'est-à-dire que la philosophie grecque, c'est aussi une quête de sagesse.
Et vous vous engagez également dans une vie monastique, ça dure pas très longtemps.
Ça dure le temps qu'il faut avant que je craque. C'est-à-dire que, en fait, j'ai lu les évangiles quand j'avais 19 ans. Et j'avais beaucoup de mal à lire les choses chrétiennes, parce que j'avais reçu une éducation catholique, enfin, que j'avais trouvé extrêmement rigide, dogmatique, normative. Donc ça m'intéressait pas du tout. Et puis, quand même, un jour, je décide d'aller dans un monastère en pleine forêt, en Bretagne, un monastère de Boquin, un monastère cistercien absolument sublime. Donc là, touché par la beauté du lieu et tout. Pour la première fois de ma vie, j'ouvre la Bible, je tombe sur l'évangile de Saint Jean, et là je lis cet évangile et je suis bouleversé. Et je me dis, mais...
Qu'est-ce qui vous bouleverse ?
Le Christ. Le Christ, sa personne, son message, je me dis, mais c'est incroyable, une liberté absolue, le message de l'évangile, enfin les gens qui l'ont pas lu peuvent pas savoir à quel point c'est un message révolutionnaire. Et que l'Église a malheureusement trahi ensuite, puisque le Christ, il libère l'individu en fait du poids de la loi, il dit que l'amour est supérieur à tout, qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains, les hommes, les femmes. Je me dis, mais ça a tout changé dans l'histoire de l'humanité. Quel dommage que effectivement ensuite l'Église n'ait pas su, et en partie, bien sûr, faut pas généraliser, mais n'ait pas su garder la force de ce message révolutionnaire, et puis on est retombé effectivement dans le poids de la loi, le droit canon, etc. et tout. Donc je lis ce message, ça me bouleverse totalement, et puis je pars en Inde, je travaille chez Mère Teresa et tout, et là d'un coup je ressens un appel à me consacrer à l'essentiel. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de perdre ma vie à gagner de l'argent et tout, j'ai envie d'aller à l'essentiel, la vie contemplative, une vie pauvre, simple et tout. Je rentre dans un monastère, et puis là, j'étais confronté à deux choses difficiles. Un, la chasteté, et je me suis dit honnêtement, je vais pas tenir toute ma vie là-dedans. Deux, le poids de l'institution, des rituels, des dogmes, et donc je me suis dit, je suis pas fait pour être religieux non plus, et donc j'ai quitté au bout de quelques années, mais ça a été une expérience, enfin j'ai appris à méditer, à prier, puis la rencontre dans la solitude avec soi-même m'a fait faire un énorme travail intérieur, et puis j'ai quitté, et puis après j'ai mené mon chemin, voilà, de manière beaucoup plus, je me considère un peu, vous savez, si on me pose la question sur cette croyance, je suis un peu un croyant agnostique, c'est-à-dire je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais je ne veux ni le nommer, ni le définir.
Notre quête de sacré, elle est consubstantielle à notre humanité.
Je suis convaincu que c'est universel. C'est-à-dire que l'être humain, partout, à cette quête du sacré. Je n'ai pas rencontré, à travers tous les voyages que j'ai faits là dans cette série pour Arte, des gens qui, à un moment donné, dans leur vie, n'ont pas ce questionnement-là. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une société qui n'est pas travaillée par cette quête-là. Et donc, on se pose la question, mais pourquoi l'être humain est-il un animal en quête de transcendance, en quête de spiritualité, qui va construire, par exemple, des édifices, les édifices religieux, qui ne servent à rien. Les animaux ne construisent aucun édifice qui ne servent à... Enfin, qui servent à rien, je suis un peu dur. Qui ne servent à rien d'utile, de pratique. Ce sont on est dans un univers symbolique. Et donc, l'être humain est le seul animal qui a une quête symbolique, c'est-à-dire qui a besoin de se relier à un invisible et qu'il peut orienter sa vie en fonction de cet invisible. Aucun animal ne fait ça. Et donc, pourquoi l'être humain est-il porté toujours à chercher à se porter son regard vers ce qu'il ne voit pas, et pourquoi est-ce qu'il invente des religions, des mythes, etc. C'est passionnant.
Que serait une vie sans sacré ?
J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, je dis c'est une quête universelle, il y a quand même plein de gens qui passent à côté. C'est-à-dire qui, effectivement, ont refoulé, je dirais, cette question. Ils avaient enfant ces questions très souvent. Et puis après, ils se disent, bon, bah, puisque j'ai pas de réponse, ou parce que les religions m'apportent des mauvaises réponses, ou des réponses qui ne me conviennent pas, je me consacre qu'à la matière, je me consacre qu'aux choses concrètes. Mais je crois que lorsqu'il y a des épreuves de vie, lorsque la mort approche, lorsqu'on fait certaines rencontres, ce questionnement ressort. Et on voit très souvent des gens qui vous disent « Bon ben voilà, je suis à un moment donné de ma vie important, un carrefour, etc. Et je me repose les grandes questions, mais ma vie a-t-elle un sens? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Y a-t-il quelque chose après la mort ?» Et ces questions-là, je crois qu'elles reviennent tôt ou tard.
Alors dans les chemins du sacré, vous avez enquêté partout dans le monde, vous avez rencontré des hommes, des femmes, des enfants qui vivent le sacré sous des formes très diverses, expérience du sacré à travers la nature, la marche, la solitude, la sagesse, la beauté. Et ce qui frappe aussi dans ce livre, c'est le sacré qui passe également par les visages. Il y a des photos absolument extraordinaires dans votre livre et ça passe dans le visage de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes du monde entier avez côtoyé.
C'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que en fait c'est un livre de photos, c'est mon premier livre de photos. Mais quand je voyais la beauté de ces visages et de ces paysages, les deux, j'ai eu envie de rendre hommage à cette beauté du monde et des âmes. Et du coup, j'ai pris en photo tout ce qui m'a touché, ému. Et c'est vrai que souvent, le sacré passe plus à travers un regard.
Un sourire.
Le sourire des enfants, des vieillards que j'ai photographiés. Et ça m'a tellement ému que voilà, j'ai voulu transmettre ces visages. Ah oui, cette petite fille.
Racontez ce que je vous montre.
C'est une petite fille en Éthiopie. Dans la Corne de l'Afrique, c'est un petit pèlerinage qui est un petit pèlerinage musulman de gens très pauvres qui ne peuvent pas aller à la Mecque. Ils vont dans ce pèlerinage de ce saint musulman Cheikh Hussein. Là, il y avait plein d'enfants partout dans le mausolée qui couraient et tout. Ils arrêtaient pas de me suivre et donc je me suis arrêté pour photographier plein d'enfants. Et là, évidemment, cette petite fille, elle est à la fois timide, on voit, et puis elle rit. Et donc j'ai pris une succession de portraits. On voit sur 4 photos toute l'évolution de son sourire, de son visage. Et c'est... Non, j'étais bouleversé par ces rencontres avec les enfants, partout. Et plus les enfants sont pauvres, en Inde, dans les bidonvilles, etc., plus ils sont lumineux, joyeux. Il y a quelque chose de merveilleux dans ces visages d'enfants.
Alors, Frédéric Lenoir, j'aimerais qu'on appuie sur pause. Quel regard portez-vous sur cette crise sanitaire qui nous a déprimés, angoissés? Pour d'autres, ça fut tout de même l'occasion de s'interroger sur le sens de la vie. En tout cas, la pandémie a réveillé beaucoup de nos fragilités.
Certainement. Vous savez, le mot crise, on vit une crise en chinois, ce sont deux idéogrammes. L'un qui veut dire danger, l'autre opportunité. Alors le danger, on voit tous ce que c'est. L'opportunité, c'est que je crois qu'à travers toute crise, comme celle du Covid, ça peut être l'occasion de se remettre en question. Et peut-être de prendre du recul et peut-être de se reposer des questions, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au sacré. Finalement, dans des moments de crise, on appuie sur pause, comme vous l'avez dit, et on se dit, mais tiens, est-ce que c'est pas le moment de me dire, est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que je vis au bon endroit? On connaît tous des gens qui, suite au premier confinement, ont décidé de déménager et d'aller vivre à la campagne, puisqu'ils se sont dit, on peut pas être coincé en ville comme ça. Le télétravail, il y a plein de gens, c'était l'occasion de découvrir, qui préféraient, s'ils pouvaient, et ça se c'est possible de plus en plus, travailler en partie chez eux plutôt que de s'épuiser dans les transports. Et puis c'est une occasion de se dire, est-ce que je vis pas trop vite, parce qu'effectivement dans nos modes de vie actuels, on court dans tous les sens, puis on prend pas le temps de respirer, on prend pas le temps de regarder ses proches, on prend pas le temps de faire des choses qu'on aime. Donc je crois que cette crise là elle a beaucoup de choses positives. Alors on l'a vécu tous différemment, c'est très inégal évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que d'autres, mais ça peut être l'occasion quand même pour beaucoup de se remettre en question.
Lors du premier confinement, nous avons cru naïvement au monde d'après, mais Michel Houellebecq a douché nos enthousiasmes en écrivant que ce serait le même monde en pire. Vous partagez son pessimisme ?
Alors, en partie. C'est-à-dire que quand je vois plein de gens qui nous disent vivement qu'on retrouve le monde d'avant, parce que c'est quand même ce que la majorité des gens souhaitent, je crains effectivement que ce soit le même empire, dans la mesure où, au fond, beaucoup de gens ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas eu, par l'interruption de leurs habitudes, des sorties, etc. Et qu'on en fasse 10 fois plus dans, 10 fois plus dans les voyages, 10 fois plus dans l'agitation, dans le fait finalement d'oublier l'essentiel. Et donc j'espère qu'on va pas repartir dans un consumérisme effréné, dans une agitation effrénée, et que ce sera pour beaucoup quand même aussi l'occasion peut-être de réorienter leur regard vers des choses plus importantes et plus essentielles. Donc sa crainte est tout à fait légitime. Maintenant, voilà, on ne sait pas. Et puis les individus sont nombreux, sont divers. Pour certains, ce sera sans doute ça. Pour d'autres, et je le vois déjà, c'est aussi l'occasion de franchir peut-être une marche qui les permet d'aller plus vers eux-mêmes, plus vers des choses essentielles. Et donc voilà, il y aura les deux, en fait.
Alors nous avons vécu des vies réduites à leur fonctionnalité, travailler, faire ses courses, consommer des contenus numériques ou télévisuels, dormir. Ce qui nous a manqué pendant toute cette période, c'est le lien avec les autres, se relier aux autres. C'est sacré, c'est d'ailleurs l'origine du mot religion, religare. La pandémie nous a séparés, et je rappelle l'étymologie du mot « diable ». C'est le mot grec « diabolos » qui désunit.
Et vous savez quel est l'inverse du mot diable, c'est symbole, symbolum, qui réunit. Et donc, en fait, je crois que le symbole, c'est aussi une des manifestations les plus fortes de la spiritualité et du sacré. Il y a un psychanalyste que j'aime beaucoup, Carl Gustav Jung, je suis en train d'écrire un livre sur lui, donc j'en ai plein de temps, et qui est le grand psychologue du symbole, parce qu'il nous dit au fond l'être humain cherche toujours à se réunir à quelque chose d'invisible, à quelque chose qui le dépasse, et ce qui permet de manifester ça, c'est le symbole, c'est-à-dire c'est le lien symbolique, c'est à travers les rêves par exemple, qui c'est un univers de symboles, c'est à travers des mandalas, à travers des œuvres artistiques que nous cherchons à travers ces symboles à retrouver cette part manquante qui nous relie à l'invisible. Et c'est pour ça que je crois que dans toute société humaine, les symboles sont très importants. Alors vous avez des symboles qui sont d'essence spirituelle, puis vous avez des symboles très matérialistes. Et aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus dans un monde où la publicité utilise tout ce besoin de symboles à travers simplement le désir de nous faire acheter des choses. Mais je crois qu'on a besoin effectivement de nous relier à des choses qui nous dépassent par toutes sortes de rituels, de symboles, d'activités qui ne sont pas forcément pratiques, utiles.
Et ça passe par la nature ?
Notamment la marche. La marche, c'est une expérience, c'est un des 5 documentaires là sur Arte, et on se rend compte que beaucoup de gens, à travers la marche, pourquoi est-ce que la marche, au fond, est une sorte de, on pourrait dire, d'exercice spirituel ? C'est parce que à la fois, on est en mouvement, et donc notre pensée est en mouvement. Moi j'ai été très frappé que les plus grands sages, prenez Socrate, Jésus ou Bouddha, ils marchaient tout le temps. Socrate, il marchait dans la cité, il était rarement chez lui. Bouddha, il a marché 40 ans dans tout le nord de l'Inde. Et Jésus, il marchait à travers tous les chemins de Judée et de Galilée en permanence. Et pourquoi ça ? Parce que je pense que c'est pour nous dire, faut jamais se poser. Faut jamais croire qu'on est arrivé. Faut être toujours dans le questionnement. Faut être toujours en chemin. Et puis, la marche nous permet d'être en contact avec la nature, donc avec le monde et la beauté du monde. Et puis, la marche, c'est aussi un moment où on peut être seul. Et donc, s'intérioriser, réfléchir, méditer. Et quand vous faites des randonnées, vous voyez que c'est un chemin d'introspection.
Sur la nature, justement, vous consacrez de belles pages à l'animisme, l'une des premières religions de l'humanité. L'animisme considère que la nature est habitée par des esprits invisibles. Et vous êtes parti au Guatemala, vous avez rencontré Lina Barrios, fille d'une famille paysanne. Elle est devenue guide spirituel maya. Racontez-nous cette rencontre avec Lina.
Alors en fait, c'est une universitaire, effectivement, mais qui est maya et qui a retrouvé ses racines spirituelles et qui les a travaillées. Et puis elle est devenue chamane, donc elle a fait des rituels dans lesquels elle rentre en transe et elle rentre en contact avec les esprits invisibles de la nature. Alors là, elle nous avait organisé un rituel avec 4 femmes chamanes. D'ailleurs, petite parenthèse, les femmes sont beaucoup plus présentes dans le chamanisme que dans toutes les religions ultérieures. Le chamanisme, c'est la religion première de l'humanité. C'est vraiment, on a les traces les plus anciennes, c'est du chamanisme, c'est resté présent dans toutes les cultures. Et puis après, les grandes traditions religieuses que l'on connaît ont un peu supplanté le chamanisme et le masculin l'a emporté. Alors que les femmes sont très très présentes dans les cultures chamaniques. Et au fond, ces 4 femmes nous ont amenés à 3h du matin, on a monté pendant 2 heures sur un volcan et on regardait un autre volcan. Elles ont fait un rituel où elles ont allumé un feu, elles ont mis dedans des... Alors là, il y avait tout un monde symbolique, c'est-à-dire qu'il y avait des offrandes, de l'encens, etc. Et puis, elles ont dansé et elles, entre guillemets, elles cherchaient à rentrer en contact avec l'esprit du volcan. Et pendant le rituel, le volcan est entré en éruption. Alors, on peut dire c'est un hasard. Moi, je dirais comme Jung, c'est une synchronicité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle dansait que le volcan est entré en éruption, mais il y a du sens. C'est-à-dire quand vous voyez ça, vous vous dites quand même, c'est tellement émouvant. Bon, évidemment, on était sidérés. Alors, j'ai pris des photos de ça, c'est dans les films. C'était un moment très fort.
Alors, parmi vos amis qui recherchent le sacré dans la nature, on retrouve l'astrophysicien Hubert Reeves. Racontez-nous sa quête de sacré dans sa maison de Malicorne, dans Lyon.
Ben, Hubert, je connais depuis 30 ans et j'ai eu la chance de venir très souvent le rencontrer à Malicorne dans cette maison magnifique en pleine forêt. Et Hubert, c'est quelqu'un qui est athée, qui ne croit absolument pas en Dieu et qui en même temps est bouleversé par la beauté de la nature, par le chant des oiseaux. Il a même écrit un livre sur les oiseaux. Et donc, il est ému par l'harmonie du monde. C'est ce que je disais. Donc, on s'est retrouvé là-dessus, sur ce plan-là. Et on a mené ensemble un combat écologique, hein, puisqu'on a fait un livre, Mal de Terre, il y a 15 ans. Et qu'on a aussi La Terre vue du cœur, un documentaire. Donc, voilà, je dirais que ce qui nous rassemble, c'est le combat pour la planète. Et puis, cette spiritualité qui est essentiellement fondée sur l'harmonie et la beauté du monde.
Et nous avons tous fait l'expérience de contempler la voûte céleste un soir d'été avec ce sentiment d'appartenance à un grand tout qu'on appelle aussi sentiment océanique. Hein, c'est formulé par l'écrivain Romain Rolland. Et c'est ce que vous dit votre amie Nicole Bordelot qui pratique le yoga indien et le qigong chinois, une pratique qui s'appuie sur l'énergie et le souffle. Elle vous parle de ce sentiment d'appartenance à un grand tout.
Et c'est important que vous citiez Romain Rolland, parce que le dialogue entre Freud et Romain Rolland, il y a une correspondance entre eux tout à fait passionnant. En fait, Freud pense que le phénomène mystique, c'est un phénomène psychotique. C'est-à-dire qu'il dit carrément, les mystiques sont dans un refus du réel qui est là, et du coup, ils s'évadent dans un imaginaire qui fait qu'ils se coupent de la réalité, ils refusent la réalité. Et Romain Rolland lui dit pas du tout. Il dit phénomène mystique, c'est ce qu'il appelle le sentiment océanique, c'est quelque chose de très réel. C'est-à-dire qu'il y a dans l'être humain, on en parlait tout à l'heure, cette espèce de quête universelle du sacré, que l'être humain peut se connecter à quelque chose, il peut faire l'expérience de quelque chose où il a le sentiment de faire partie d'un tout. Et il dit, il n'y a rien de plus réel, en fait. Simplement, Freud n'en a pas fait l'expérience. Et du coup, il y a cet échange magnifique entre une vision matérialiste et une vision spiritualiste du monde. Et c'est aussi la grande séparation entre Freud et Jung. C'est qu'ils se sont séparés aussi sur cette question-là. Et que Jung avait des visions, des rêves, et il était un peu mystique. Et donc, effectivement, je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que tout être humain peut faire des expériences qui ne sont pas névrotiques ou psychotiques, dans lesquelles il a le sentiment de lâcher son ego, ce qu'on appelle ça en Orient, lâcher l'ego, qui n'est plus simplement cet individu séparé du reste, de la réalité, etc., mais qu'il fait partie du monde, et qu'à ce moment-là, c'est une expérience d'amour, de simplicité, d'unité. Et quelqu'un qui en parle très très bien aussi, c'est mon ami André Comte-Sponville, qui est un philosophe athée, et qui dit, une fois, j'ai beau croire ni en Dieu ni en diable, j'étais en pleine nature, je crois dans la forêt de Fontainebleau d'ailleurs, et puis d'un coup, il dit, j'ai eu le sentiment que je n'existais plus en tant qu'individu séparé, et je me fondais dans cette harmonie du monde et de la nature. C'est une vraie expérience mystique. Beaucoup de gens font ce type d'expérience, mais on n'ose pas trop en parler, parce que des fois, on se dit on va être pris pour un fou ou pour un illuminé.
Allez, on continue dans quelques instants à emprunter les chemins du sacré en compagnie de Frédéric Lenoir. En attendant, on écoute Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer.
Laurent Voulzy, le pouvoir des fleurs, et Frédéric Lenoir, vous vouliez parler de Laurent Voulzy.
Mais oui, parce que Laurent Voulzy, il m'avait invité un jour chez Michel Drucker, c'est sur le canapé rouge, parce qu'il est passionné de spiritualité, il lit tous mes bouquins, et on a eu une super rencontre. Et on s'est revus plusieurs fois, et récemment, on a fait un dialogue pendant une heure sur la spiritualité, il médite beaucoup, enfin c'est quelqu'un vraiment très profond, et j'ai mis ce podcast sur mon site internet, hein, frédériclenoir.com, et vraiment, ceux qui aiment Voulzy, et écoutez-le sur ce qu'il a à dire sur ce sujet-là, le sacré et la spiritualité,
on va écouter,
à travers ce dialogue.
C'est l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes.
Grand bien vous fasse.
C'est le Colosseum de la nature, c'est le cirque de Gavarnie.
Ali Rebéi.
Victor Hugo, 27 juillet 1843.
Sur France Inter.
11h25 et nous empruntons ce matin les chemins du sacré en compagnie donc de Frédéric Lenoir. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000.
L'être humain possède cette singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter d'entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette aspiration, aussi ancienne qu'Homo sapiens, je la qualifie de quête ou d'expérience du sacré. De cette quête sont nées, au fil des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité. Depuis nos lointains ancêtres qui commencent il y a 100 000 ans à enterrer leurs morts, jusqu'au mouvement spirituel contemporain. Confronté aux phénomènes naturels qu'il ne parvient pas à expliquer, l'être humain ressent de la crainte ou même de l'effroi devant la puissance mystérieuse de la nature. Il est aussi ému par la beauté du monde. Ses sentiments de peur et d'émerveillement sont à l'origine du sacré.
extrait des Chemins du Sacré, disponible sur arte.tv. Vous avez donc rencontré, Frédéric Lenoir, des femmes et des hommes en quête de sagesse au Japon, à Kyoto, la capitale spirituelle du Japon, rencontre avec le moine zen Magami. Avant de nous raconter cette rencontre, quels sont les grands principes du zen, cette branche du bouddhisme japonais Mahayana? De façon très 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 schématique, on peut dire que c'est accepter que toute chose se transforme sans cesse. Oui, mais encore.
Bah ça, ce que vous avez décrit, c'est le principe d'impermanence, ouais, qui est un des grands principes du bouddhisme, c'est qu'effectivement tout se transforme, tout bouge, et donc faut être dans une forme de détachement. C'est-à-dire accepter que vous contrôlez pas les choses, qu'elles peuvent en permanence vous échapper, puis que vous-même vous changez tout le temps. Et puis l'autre grand principe du bouddhisme Mahayana, c'est la compassion. C'est la compassion universelle pour tout être vivant, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans la rencontre avec ce moine zen dans la très belle ville de Kyoto, un magnifique endroit.
Je rêve d'y aller.
Mais il faut y aller, parce que c'est vraiment un très beau. Bon, il y a des temples partout, hein. Faut aimer les temples et les jardins zen. Les jardins zen, c'est une merveille. Et donc ce moine zen, il médite devant dans son temple, devant ce jardin, et donc il a tout un long moment de silence, d'intériorité, où il cherche à atteindre, comme tout bouddhiste, l'éveil, c'est-à-dire l'illumination qui permet de plus s'identifier à son ego, à son mental, à son individualité, pour justement prendre conscience que nous sommes tout à fait au-delà de cette identification à notre moi, et que notre être profond, en fait, faut le rencontrer, mais très souvent il nous échappe. Donc c'est la grande quête de l'illumination dans le bouddhisme. Et puis en même temps, il a besoin de partager quelque chose aux autres, et il nous a dit, moi depuis l'enfant je me dis comment être utile aux autres, et la manière qu'il a trouvé d'être utile aux autres, c'est de faire l'art du thé, c'est de leur servir le thé,
la cérémonie du thé.
Ah ouais, bon, c'est quelque chose. Ouais. Donc là, c'est rien à voir, je fais plus le thé autrement. Maintenant que j'ai vu la manière dont il fait le thé, c'est tout un rituel très très lent. Alors on le voit évidemment dans les films, où il voit chaque chose est posée à une fonction symbolique, la manière dont il va très lentement préparer le thé, et puis quand il vous le sert, il vous regarde, mais vous avez intérêt à aimer son thé, hein, parce que vous sentez qu'il a mis tout l'amour du monde pour le faire. Et puis son bonheur, c'est de faire un thé qui satisfasse pleinement son invité.
Quatre principes dans cette cérémonie du thé: respect, harmonie, pureté, tranquillité. Il est essentiel de mettre du sacré dans nos rituels quotidiens, de mettre du sacré dans nos actes quotidiens.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il faut, dans tous les actes quotidiens...
Non, pas dans tous les actes, mais privilégier peut-être certains actes dans nos journées.
Peut-être avoir des moments où on peut mettre plus de qualité de présence, et d'une qualité de présence où on met plus de sens aussi. Oui, on peut avoir dans ce sens-là des rituels qui soient, encore une fois, religieux ou laïques, dans lequel, mais c'est par exemple des petits moments où déjà on s'intériorise. Hein. Moi, la méditation, pendant longtemps, j'ai fait le côté, j'étais pendant une demi-heure sur mon coussin et tout, mais non, je fais plus du tout ça.
Qu'est-ce que vous faites ?
C'est plutôt quand je marche dans la rue, j'essaye de marcher en conscience, d'être présent, de ressentir la marche, le souffle. Si je me pose à un moment donné sur un banc, je m'arrête, j'ai 5 minutes d'avance à un rendez-vous, au lieu de regarder mon téléphone portable, quand je suis en avance à une émission de radio, tout, je me pose sur un banc et puis j'essaye d'être présent, à l'écoute de mon souffle, de ce que je vois, etc. Dans un taxi, j'essaye de prendre quelques minutes de moments de pleine attention pour savourer simplement le fait d'être là, le fait d'être en vie, le fait de ressentir quelque chose, d'accueillir ce qui est. Ces petits moments-là, ça ponctue ma journée, et c'est comme si je méditais une demi-heure tous les matins, les yeux fermés. Donc finalement, il y a plein de manières, de moments où on peut avoir ces petits instants de qualité de présence.
Moi, c'est quand je fais la vaisselle, par exemple.
Pourquoi pas? Alors, moi, je fais plus la vaisselle depuis que j'ai un lave-vaisselle, mais effectivement.
Moi, je refuse le lave-vaisselle pour pouvoir méditer en faisant la vaisselle.
Parce que ça peut être un acte, effectivement, Alors, moi, je le fais aussi dans le jardinage. Ouais. J'ai la chance de vivre à la campagne, et c'est vrai que j'aime beaucoup mettre les mains dans la terre, et là, c'est des moments aussi où on peut ressentir ce lien avec la nature, déjà, hein, qui est très fort, la terre nourricière. Moi, de voir pousser les tomates, ça m'émerveille. Je me dis, c'est un miracle permanent, la vie. Donc, dans tous ces moments-là, ces petits moments de présence et d'émerveillement, je crois que ce sont des moments du sacré.
Revenons à la marche et écoutons Luigi, un pèlerin qui a emprunté les chemins de Compostelle et que vous avez rencontré, Frédéric Lenoir.
Mon départ n'est absolument pas lié à une raison religieuse, même s'y croire est pour moi une chose importante. C'est plutôt une recherche de moi-même. J'utilise ce chemin si riche en énergie positive pour m'aider à me retrouver dans cette nouvelle étape de ma vie. Je sens que je me suis enrichi à cet égard. Le chemin est un élément qui offre 1000 possibilités. Précisément parce que vous êtes dans un mouvement lent. C'est un mouvement immergé dans la nature à 90%. Donc, vous avez le temps d'être avec vous-même. Et cela vous aide à vous élever. Chacun met sur le chemin un élément spirituel, un choix de vie profond, un désir de changement ou de découvrir quelque chose de nouveau. C'est ce qui se passe en marchant.
Extrait de la série documentaire Les Chemins du Sacré. Alors Frédéric Lenoir, comme environ 200 000 pèlerins chaque année, vous avez emprunté les chemins de Compostelle?
Alors moi, je l'ai pas fait entièrement, parce qu'effectivement, je l'ai fait par petits bouts. Moi, ce que j'ai appris, c'est la première chose, c'est les rencontres. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres avec des gens qui viennent du monde entier, qu'on n'aurait jamais rencontré autrement, et d'un coup vous croisez des personnes qui ont des histoires, qui ont des vécus, qui ont traversé des épreuves, qui vous racontent leur vie. C'est un moment d'humanité extrêmement touchant. Et puis la deuxième chose, c'est le fait qu'on apprend à s'alléger. On part avec un sac à dos qui est toujours trop lourd, et puis progressivement, on essaye d'enlever tout le superflu, parce qu'on peut pas marcher 30 km par jour avec un sac à dos qui fait 15 kilos, et donc il faut arriver à 8 kilos. Et là, on apprend que peut-être que dans nos vies, c'est la même chose, c'est qu'on est beaucoup trop chargé, on est beaucoup trop encombré d'objets, encombré de choses, encombré de superflu, et c'est un chemin vers l'essentiel, aller vers qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour continuer d'avancer sur le chemin, et puis vous restez avec très peu de choses, et vous apercevez que vous pouvez être très bien avec très peu de choses, et que finalement c'est l'occasion de faire pas mal de tri dans sa vie.
Alors le généticien Axel Kahn a raconté son chemin de Compostelle. Il vit aujourd'hui ses derniers jours suite à un cancer incurable. Il disait hier à François Bunel dans la grande librairie sur France 5 « Je suis d'une totale impavidité par rapport à la mort, elle m'indiffère totalement ». Quel rapport vous entretenez, vous, avec la mort, Frédéric Lenoir?
Déjà, je suis très ému par ce que vous venez de dire, parce que j'adore Axel Kahn. On s'est rencontrés il y a 7-8 mois, on a marché ensemble. Il m'a pas dit du tout qu'il était atteint, donc je suis vraiment bouleversé de savoir que c'est peut-être la fin pour lui.
Il le dit, hein, c'est
ouais, je m'en doute. Donc la question de la mort, c'est plutôt la mort des autres qui me touche. C'est la perte des êtres chers, et donc évidemment chaque fois que j'ai perdu un être cher, j'étais bouleversé. Après ma propre mort, j'avoue que j'y pense pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va cultiver, comme vous savez, comme les philosophes de l'Antiquité, qui vont mettre un crâne sur leur bureau pour se rappeler qu'ils sont mortels. Je pense que j'ai tout à fait conscience que je suis mortel, que je vis pas comme si j'étais immortel. Et c'est pour ça que j'essaye de vivre intensément la vie. Montaigne a cette phrase magnifique qui dit « J'essaye de compenser la brièveté de l'existence par l'intensité que je mets dans toutes mes expériences ». Ben, j'essaye de vivre selon ce principe. Parce que je sais que je suis mortel, j'essaye de vivre avec le plus de présence, le plus d'amour chaque instant de ma vie. Après, j'ai l'intime conviction que l'esprit peut survivre au corps. Donc ça, c'est pas pour moi une croyance religieuse, c'est pas une certitude non plus, c'est une intime conviction. C'est-à-dire, je ne crois pas que notre esprit soit mortel, c'est-à-dire, je crois qu'il peut continuer d'exister et que notre conscience peut se séparer du corps matériel. Donc évidemment, cette croyance, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, parce que j'en ai aucune certitude, peut aussi apporter un certain apaisement par rapport à l'idée de la mort. Et j'ai vécu des expériences où des personnes qui étaient décédées de mon entourage m'ont contacté d'une manière ou d'une autre. Ça a été très surprenant. Je vais vous raconter une toute petite anecdote, parce que je n'ai jamais raconté à la radio, mais c'est très concret. Un jour, j'avais un problème de genou. J'étais avec le genou bloqué. J'étais chez mon frère en pleine campagne dans les Alpes d'Haute-Provence. Et il m'amène chez une rebouteuse, qui était une vieille femme dans une ferme, et qui me magnétise le genou, et je commence à zétendre. Puis d'un coup, elle me dit « Qui est Louis ?» Je dis « C'est mon second prénom, je m'appelle Frédéric Louis. » Elle dit « Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Louis. » Je dis « C'était mon parrain, mais il est décédé il y a 15 ans. » Elle me dit « Il est là. » Je dis « Comment ça, il est là ?» Elle me dit « Voilà, il est là, et il a des choses à vous dire. » Et là, elle me raconte la vie de mon parrain. Et qui me dit « prends le temps de vivre. Ton genou s'est bloqué parce que tu cours trop, tu fais trop de choses. La vie est courte, prends le temps de faire les choses et tout. Et tout ce qu'elle a dit de mon parrain était vrai sur sa vie, etc. et tout. Des choses comme ça sont troublantes.
Et vous cherchez à comprendre ce trouble? Certains auditeurs peuvent se dire, tiens, mais qu'est-ce que nous raconte Frédéric Lenoir? Est-ce que vous essayez de comprendre? Vous dites, bon, ben voilà, elle m'a raconté cette anecdote qui paraît irrationnelle.
Alors, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation que les morts continuent d'exister après la vie, donc leur corps a disparu, mais leur esprit continue d'exister, et qui peuvent parfois rentrer en contact avec les vivants ou chercher en contact avec eux. Deuxième interprétation possible, elle s'est connectée à mon inconscient et elle a lu l'histoire de mon parrain dans mon inconscient, et j'ai eu un mécanisme projectif où, à travers mon inconscient, je lui ai dit un message que j'avais besoin d'entendre. Donc, mais dans les deux cas, c'est quand même assez mystérieux, parce que...
Que dirait Jung, sur lequel vous écrivez en ce moment?
C'est très intéressant parce qu'il n'a pas tranché. Jung a été confronté à plein, il s'est passionné pour tous ces phénomènes paranormaux. Il a beaucoup fait de spiritisme, vous savez, comme Victor Hugo, hein, qui était passionné de spiritisme, parce qu'il voulait comprendre. Il se dit, mais est-ce que les morts nous parlent vraiment? Et jusqu'au bout, il n'a pas tranché. C'est-à-dire qu'il a dit, au fond, je ne sais toujours pas si c'est vraiment les morts qui nous parlent ou si c'est un phénomène psychique inconscient. Et donc, ça reste un grand mystère. Voilà. On verra. Je vous en reparlerai quand je serai de l'autre côté.
Avec plaisir. Alors, pour beaucoup, Frédéric Lenoir, l'expérience du sacré passe par la beauté.
Ben, moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est évident que c'est la beauté du monde qui m'a conduit à une forme de quête spirituelle. Et on a rencontré dans ces épisodes pour Arte, on a rencontré effectivement beaucoup d'artistes. C'est-à-dire des gens qui, à travers une création artistique, vivent une expérience spirituelle très forte. Ce qui fait que on a des gens qui font des mandalas. Par exemple, les mandalas tibétains, c'est une merveille. Et alors, on a eu un moine qui a passé 3 jours. On l'a filmé pendant 3 jours à faire un mandala avec des couleurs, des formes géométriques, enfin c'est d'une richesse symbolique incroyable. Puis une fois qu'il a fini, il a soufflé et c'est parti en quelques ondes. Et là, je me suis dit, des artistes qui créent une œuvre et qui l'effacent, c'est vraiment l'impermanence. Hein. C'est vraiment le détachement dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'impermanence, parce qu'effectivement, faut pas s'attacher non plus à son œuvre et à ce qu'on a créé. Et puis, on a rencontré des artistes, par exemple, je pense à Franck Laloux, cet artiste juif qui fait des lettres hébraïques, des calligraphies absolument merveilleuses. Donc, à travers cette danseuse aussi, cette magnifique danseuse iranienne qui à la suite de Rumi hein, fait des derviches tourneurs, fait des danses sacrées. Donc à travers le chant, la danse, la musique, je crois que la musique, combien la musique touche notre âme, c'est Cioran, personne désespérée, athée matérialiste, qui disait mais Dieu doit tant à Jean-Sébastien Bach.
Tiens, justement. Quelques notes des variations Goldberg de Bach par Glenn Gould.
Ça, c'est un de
1981.
Alors, il y a deux grands enregistrements des Goldberg variations de Bach par Glenn Gould. Et moi, celle qui me bouleverse le plus, c'est celle effectivement 1981. C'est son dernier enregistrement où il le joue beaucoup plus lentement qu'avant. Et il y a une espèce de poésie. D'ailleurs, de temps en temps, on l'entend. Il pousse des petits soupirs. Il est habité. Et les Goldberg variations et Bach en général, moi ça me met, j'écoute ça tous les matins et ça me met dans un état de sérénité absolue.
Pour terminer, imaginons qu'une météorite détruise la Terre de façon sûre et certaine dans la semaine qui vient. Que faites-vous dans ce laps de temps ?
Je crois que je changerai rien à mon quotidien, mais j'essaierai d'y mettre encore plus de présence et d'amour. Voilà, c'est ça qui compte le plus. C'est pas, j'ai choisi la vie que je voulais, donc je suis pas à côté de ma vie, mais je l'habiterai encore davantage. Et ça me fait penser d'ailleurs que mon dernier livre, c'est un conte initiatique qui s'appelle Juste après la fin du monde. Donc j'ai imaginé qu'il y aurait une fin du monde, sauf que j'imagine que c'est pas la Terre qui est entièrement détruite, c'est l'humanité qui est presque totalement détruite et qui a un reste de survivants qui essayent de reconstruire le monde et de pas faire les erreurs du passé. Et donc, la personne principale, c'est une femme qui s'appelle Natina et qui va être une sorte de prophète de la sagesse pour expliquer aux humains comment est-ce qu'on peut repartir et dialoguer avec eux pour ne pas recommettre les erreurs, développer une sagesse et en même temps Je crois qu'il y a quelque chose qu'on pourrait développer si on revivait et qu'on voulait recréer une nouvelle civilisation, c'est développer davantage les forces de l'esprit. Parce que l'être humain, dans toutes nos civilisations, a surtout cherché à comprendre la matière, surtout l'occidentale. On a travaillé la matière de manière extraordinaire. On a appris à maîtriser la matière. On a ausculté l'atome, les étoiles, etc. Mais on n'a pas travaillé sur notre esprit, à part les bouddhistes finalement. Très peu. Alors que je pense que l'esprit est capable de choses absolument extraordinaires, comme la transmission de pensée. Vous savez ce qu'on appelle les miracles. Je crois pas du tout aux miracles. Je crois que c'est la force de la pensée qui peut agir sur la matière. Donc ce travail, ce lien entre la matière et l'esprit, je pense que c'est la grande question scientifique des années à venir, enfin des décennies, des siècles à venir, et qu'une humanité qui travaillerait beaucoup plus sur le lien entre la matière et l'esprit irait beaucoup plus loin pour grandir en humanité et vivrait plus en harmonie avec son environnement.
Frédéric Lenoir, restez avec nous. Dans un instant, c'est l'heure de la chronique de Julia Foyce, pas son genre. En attendant, on écoute Eni.
Jiggy, I'm sweet, I'm chasing my dreams. You're Aggie with me, cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the source. I'm lost in the shoe, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and 100 grand and a peg. And we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I want what I want. And I want when I want it. I paved the way for you to make a move, to get her on it. Keep holding yourself back. You can't make up your mind. Yeah. See, I want. Work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I
Eni vient d'interpréter I Want.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui, 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 oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de vivre, voilà.
Oh. 10h54 et c'est l'heure de la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bonjour Julia.
Bonjour Ali.
Et on commence avec la question de la semaine. Peut-on, oui ou non, allaiter son enfant dans l'espace public?
Alors vous non, Ali, hein, pour des raisons techniques. Les femmes, elles, devraient pouvoir le faire puisque rien ne leur interdit légalement. Sauf qu'en pratique, c'est toujours un petit peu compliqué. Depuis quelques semaines, affluent sur les réseaux sociaux des témoignages de mères à qui l'on a demandé de sortir, de se rhabiller, qui ont essuyé un regard, une remarque, une gifle. Oui. Une gifle. En fait, tout est parti de là. C'était en mai dernier à Bordeaux. Maëlys est dans la file d'attente d'un point relais. Son bébé de 6 mois, Nino, commence à avoir faim. Très faim. Alors, il pleure. Très fort. Alors, Maëlys veut le calmer. Alors, elle découvre à peine sa poitrine. Et là, paf, une baffe. C'est une cliente qui n'a pas supporté. Les réseaux non plus n'ont pas tellement aimé. L'histoire circule, déclenche un déluge de commentaires et parvient jusqu'à l'oreille d'une députée qui vient de déposer cette proposition de loi. L'entrave à l'allaitement pourrait devenir un délit puni de 1 500 € d'amende. Super. Bravo. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me demander ce qui tourne suffisamment par rond chez nous pour qu'on doive rappeler encore et toujours et dans de nouvelles lois que seules les femmes sont aptes à savoir ce qu'elles peuvent ou doivent ou veulent faire de leur corps. Visiblement, le message ne passe toujours pas.
Et pour l'égalité à l'entretien d'embauche, Julia, à en croire ce sondage IFOP, eh bien, on repassera.
Une femme sur cinq dit avoir subi un comportement déplacé ou une remarque sexiste pendant un entretien d'embauche. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Et c'est pire encore, les chiffres sont quasiment multipliés par 2 quand ces femmes sont bisexuelles, homosexuelles, racisées ou non valides. Alors, est-ce que les recruteurs seraient devenus plus sexistes ou bien est-ce que les candidates, elles, seraient plus conscientes de leurs droits? Difficile à dire, évidemment, même si, d'après l'IFOP, le mouvement MeToo a clairement joué son rôle à plein. Les femmes, aujourd'hui, ne tolèrent plus.
Dernière brève, on termine avec l'image de la semaine.
Postée sur Instagram par le duc François de Bavière dans son château de Nymphenburg à Munich, il est installé sur son fauteuil, entouré de lourdes tentures et de motifs champêtres, prenant la pose à côté de son compagnon, accoudé, lui, au dossier du fauteuil. Le couple a choisi le mois des fiertés LGBT et le photographe officiel de la famille royale pour ce tout premier coming out que la royauté européenne ait jamais connu. François de Bavière, descendant de Sissi, n'avait jamais caché son homosexualité, sans l'afficher non plus. Il le fait donc cette fois à l'âge fort respectable de 88 ans. Tenez, d'ailleurs, puisqu'on parle de chiffres, je vous en donne quelques-uns avant qu'on se quitte. Ali, 20. Celui-ci roulait en boucle sur Twitter ce week-end et c'est le nombre de plaintes déposées par Céline Piquet à la police contre son mari avant qu'il ne la tue. 56, c'est le nombre de féminicides recensés depuis le début de l'année et ça se confirme, le rythme repart bien à la hausse. 25, ce sont les années de cohabitation entre Valérie Bacot et Daniel Paulette, son beau-père depuis l'âge de ses 12 ans, mais également le père de ses 4 enfants, tous issus de viols. Combien de viols y a-t-il eu ça? On ne sait pas combien de coups non plus. En revanche, il ne la prostitue plus parce qu'un jour, en 2016, elle l'a tuée. Violée par un énième client à l'arrière d'une Peugeot, il y avait un flingue, elle l'a pris et l'a tiré. Jugée en ce moment aux assises de Saône-et-Loire, elle risque la perpétuité. Verdict demain. Ali, ce qui est sûr, c'est qu'elle risque gros. Les femmes qui tuent leur mari écopent en général de 15 à 20 ans de réclusion contre 7 pour les maris qui tuent leur femme. Pourquoi? Parce que pour les femmes, on retient la préméditation. Pour les hommes, on parle d'une impulsion. Il y a les faits et il y a toujours leur interprétation. Ces chiffres, c'était les derniers, promis, proviennent de l'Observatoire des prisons.
Merci beaucoup, Julia Foïs. Quel est le programme de Passons Genre, l'émission?
Eh ben, le programme, c'est musique pour les auditeurs de France Inter, repos pour nous. Mais on vous prépare une très très belle dernière. Je vous donne juste un indice. Ali, ça va sentir bon l'océan.
D'accord, et ce sera donc vendredi prochain à 20h. Merci beaucoup et merci Frédéric Lenoir. Les Chemins du Sacré est disponible en librairie et la série documentaire est visible sur arte.tv. Demain, grand bien vous fasse loisir, spécial voyage.